Chapitre 10 Une nostalgie. Pendant les récréations, Esther questionnait avec mesure ses compagnes sur les choses du monde les plus simples et qui, pour elle, étaient comme les premiers étonnements de la vie pour un enfant. Quand elle sut qu'elle serait habillée de blanc le jour de son baptême et de sa première communion, qu'elle aurait un bandeau de satin blanc, des rubans blancs, des souliers blancs, des gants blancs, qu'elle serait coiffée de nœuds blancs, elle fondit en larmes au milieu de ses compagnes étonnées. C'était le contraire de la scène de Jephthé sur la montagne. La courtisane eut peur d'être comprise, elle rejeta cette horrible mélancolie sur la joie que ce spectacle lui causait par avance. Comme il y a, certes, aussi loin des mœurs qu'elle quittait, aux mœurs qu'elle prenait, qu'il y avait de distance entre l'état sauvage et la civilisation, elle avait la grâce et la naïveté, la profondeur qui distinguent la merveilleuse héroïne des puritains d'Amérique. Elle avait aussi, sans le savoir elle-même, un amour au cœur qui la rongeait, un amour étrange, un désir plus violent chez elle qui savait tout qu'il ne l'est chez une vierge qui ne sait rien, quoique ces deux désirs eussent la même cause et la même fin. Pendant les premiers mois, la nouveauté d'une vie recluse, les surprises de l'enseignement, les travaux qu'on lui apprenait, les pratiques de la religion, la ferveur d'une sainte résolution, la douceur des affections qu'elle inspirait, enfin l'exercice des facultés de l'intelligence réveillée, tout lui servit à comprimer ses souvenirs, même les efforts de la nouvelle mémoire qu'elle se faisait, car elle avait autant à désapprendre qu'à apprendre. Il existe en nous plusieurs mémoires. Le corps, l'esprit ont chacun la leur. Et la nostalgie, par exemple, est une maladie de la mémoire physique. Pendant le troisième mois, la violence de cette âme vierge, qui tendait à pleines ailes vers le paradis, fut donc non pas domptée, mais entravée par une sourde résistance dont la cause était ignorée d'Esther elle-même. Comme les moutons d'Écosse, elle voulait paître à l'écart. Elle ne pouvait vaincre les instincts développés par la débauche. Les rues boueuses du Paris qu'elle avait abjurées la rappelaient-elles. Les chaînes de ses horribles habitudes rompues tenaient-elles à elle par des scellements oubliés. Et les sentait-elle comme, selon les médecins, les vieux soldats souffrent encore dans les membres qu'ils n'ont plus. Les vices et leurs excès avaient-ils si bien pénétré jusqu'à sa moelle que les eaux saintes n'atteignaient pas encore le démon caché là? La vue de celui pour qui s'accomplissaient tant d'efforts angéliques était-elle nécessaire à celle à qui Dieu devait pardonner de mêler l'amour humain à l'amour sacré? L'un l'avait conduite à l'autre. Se faisait-il en elle un déplacement de la force vitale et qui entraînait des souffrances nécessaires? Tout est doute et ténèbres dans une situation que la science a dédaigné d'examiner en trouvant le sujet trop immoral et trop compromettant, comme si le médecin et l'écrivain, le prêtre et le politique n'étaient pas au-dessus du soupçon. Cependant, un médecin arrêté par la mort a eu le courage de commencer des études laissées incomplètes. Peut-être la noire mélancolie à laquelle Esther fut en proie et qui obscurcissait sa vie heureuse participait-elle de toutes ces causes. Et incapable de les deviner, peut-être souffrait-elle comme souffrent les malades qui ne connaissent ni la médecine ni la chirurgie. Le fait est bizarre. Une nourriture abondante et saine, substituée à une détestable nourriture inflammatoire, ne sustenterait pas Esther. Une vie pure et régulière, partagée en travaux modérés exprès et en récréation, mise à la place d'une vie désordonnée où les plaisirs étaient aussi horribles que les peines. Cette vie brisait la jeune pensionnaire. Le repos le plus frais, les nuits les plus calmes qui remplaçaient des fatigues écrasantes et les agitations les plus cruelles, donnait une fièvre dont les symptômes échappaient au doigt et à l'œil de l'infirmière. Enfin, le bien, le bonheur succédant au mal et à l'infortune, la sécurité à l'inquiétude, était aussi funeste à Esther que ses misères passées l'eussent été à ses jeunes compagnes. Implantée dans la corruption, elle s'y était développée. Sa patrie infernale exerçait encore son empire, malgré les ordres souverains d'une volonté absolue. Ce qu'elle haïssait était pour elle la vie, ce qu'elle aimait la tuait. Elle avait une si ardente foi que sa piété réjouissait l'âme. Elle aimait à prier. Elle avait ouvert son âme aux clartés de la vraie religion, qu'elle recevait sans effort, sans doute. Le prêtre qui la dirigeait était dans le ravissement. Mais chez elle, le corps contrariait l'âme à tout moment. On prit des carpes à un étang bourbeux pour les mettre dans un bassin de marbre et dans de belles eaux claires, afin de satisfaire un désir de Madame de Maintenon qui les nourrissait des bribes de la table royale. Les carpes dépérissaient. Les animaux peuvent être dévoués, mais l'homme ne leur communiquera jamais la lèpre de la flatterie. Un courtisan remarqua cette muette opposition dans Versailles. « Elles sont comme moi, » répliqua cette reine inédite. « Elles regrettent leurs vases obscurs. » Ce mot est toute l'histoire d'Esther. Par moments, la pauvre fille était poussée à courir dans les magnifiques jardins du couvent. Elle allait, affairée, d'arbre en arbre. Elle se jetait désespérément aux coins obscurs en y cherchant quoi ? Elle ne le savait pas, mais elle succombait aux démons, elle coquetait avec les arbres, elle leur disait des paroles qu'elle ne prononçait point. Elle se coulait parfois le long des murs, le soir, comme une couleuvre, sans châle, les épaules nues. Souvent à la chapelle, durant les offices, elle restait les yeux fixés sur le crucifix, et chacun l'admirait, les larmes la gagnaient. Mais elle pleurait de rage. Au lieu des images sacrées qu'elle voulait voir, les nuits flamboyantes où elle conduisait l'orgie, comme Abneck conduit au conservatoire une symphonie de Beethoven, ces nuits rieuses et lascives, coupées de mouvements nerveux, de rires inextinguibles, se dressaient, échevelées, furieuses, brutales. Elle était au dehors suave comme une vierge qui ne tient à la terre que par sa forme féminine. Au-dedans, s'agitait une impériale messaline. Elle seule était dans le secret de ce combat du démon contre l'ange. Quand la supérieure la grondait d'être plus artistement coiffée que la règle ne le voulait, elle changeait sa coiffure avec une adorable et prompte obéissance. Elle était prête à couper ses cheveux si sa mère le lui eût ordonné. Cette nostalgie avait une grâce touchante dans une fille qui aimait mieux périr que de retourner aux pays impurs. Elle pâlit, changea, maigrit. La supérieure modéra l'enseignement et prit cette intéressante créature auprès d'elle pour la questionner. Esther était heureuse, elle se plaisait infiniment avec ses compagnes, elle ne se sentait attaquée en aucune partie vitale. Mais sa vitalité était essentiellement attaquée. Elle ne regrettait rien, elle ne désirait rien. La supérieure, étonnée des réponses de sa pensionnaire, ne savait que penser en la voyant en proie à une langueur dévorante. Le médecin fut appelé lorsque l'état de la jeune pensionnaire parut grave. Mais ce médecin ignorait la vie antérieure d'Esther et ne pouvait la soupçonner. Il trouva la vie partout. La souffrance n'était nulle part. La malade répondit à renverser toutes les hypothèses. Restait une manière d'éclaircir les doutes du savant qui s'attachait à une affreuse idée. Esther refusa très obstinément de se prêter à l'examen du médecin. La supérieure en appela, dans ce danger, à l'abbé Herrera. L'Espagnol vint, vit l'état désespéré d'Esther, et causa pendant un moment à l'écart avec le docteur. Après cette confidence, l'homme de science déclara à l'homme de foi que le seul remède était un voyage en Italie. l'abbé ne voulut pas que ce voyage se fît avant le baptême et la première communion d'Esther. « Combien faut-il de temps encore ? » demanda le médecin. « 1 mois, » répondit la supérieure. « Elle sera morte, » répliqua le docteur. « Oui, mais en état de grâce et sauvée, » dit l'abbé. La question religieuse domine en Espagne les questions politiques, civiles et vitales. Le médecin ne répliqua donc rien à l'espagnol. Il se tourna vers la supérieure, mais le terrible abbé le prit alors par le bras pour l'arrêter. « Pas un mot, monsieur, » dit-il. Le médecin, quoique religieux et monarchique, jeta sur Esther un regard plein de pitié tendre. Cette fille était belle comme un lys penché sur sa tige. « À la grâce de Dieu, donc, » s'écria-t-il en sortant. Le jour même de cette consultation, Esther fut emmenée par son protecteur au rocher de Cancale, car le désir de la sauver avait suggéré les plus étranges expédients à ce prêtre. Il essaya de 2 excès, un excellent dîner qui pouvait rappeler à la pauvre fille ses orgies, l'opéra qui lui présenterait quelques images mondaines. Il fallut son écrasante autorité pour décider la jeune sainte à de telles profanations. Herrera se déguisa si complètement en militaire qu'Esther eut peine à le reconnaître. Il eut soin de faire prendre un voile à sa compagne et la plaça dans une loge où elle put être cachée au regard. Ce palliatif, sans danger pour une innocence si sérieusement reconquise, fut promptement épuisé. La pensionnaire éprouva du dégoût pour les dîners de son protecteur, une répugnance religieuse pour le théâtre, et retomba dans sa mélancolie. « Elle meurt d'amour pour Lucien, » se dit Herrera, qui voulut sonder la profondeur de cette âme et savoir tout ce qu'on en pouvait exiger. Il vint donc un moment où cette pauvre fille n'était plus soutenue que par sa force morale et où le corps allait céder. Le prêtre calcula ce moment avec l'affreuse sagacité pratique apportée autrefois par les bourreaux dans leur art de donner la question. Il trouva sa pupille au jardin, assise sur un banc, le long d'une treille que caressait le soleil d'avril. Elle paraissait avoir froid et s'y réchauffer. Ses camarades regardaient avec intérêt sa pâleur d'herbe flétrie, ses yeux de gazelle mourante, sa pose mélancolique. Esther se leva pour aller au-devant de l'espagnol par un mouvement qui montra combien elle avait peu de vie et, disons-le, peu de goût pour la vie. Cette pauvre bohémienne, cette fauve hirondelle blessée, excita pour la seconde fois la pitié de Carlos Herrera. Ce sombre ministre, que Dieu ne devait employer qu'à l'accomplissement de ses vengeances, accueillit la malade par un sourire qui exprimait autant d'amertume que de douceur, autant de vengeance que de charité. Instruite à la méditation, à des retours sur elle-même depuis sa vie quasi monastique, Esther éprouva pour la seconde fois un sentiment de défiance à la vue de son protecteur. Mais, comme à la première, elle fut aussitôt rassurée par sa parole. « Eh bien, ma chère enfant, disait-il, pourquoi ne m'avez-vous jamais parlé de Lucien ?»« Je vous avais promis, répondit-elle en tressaillant de la tête aux pieds par un mouvement convulsif. « Je vous avais juré de ne point prononcer ce nom. »
« Vous n'avez cependant pas cessé de penser à lui. »
« Là, monsieur, est ma seule faute. À toute heure, je pense à lui. Et quand vous vous êtes montré, je me disais à moi-même ce nom. »
« L'absence vous tue ?»
Pour toute réponse, Esther inclina la tête à la manière des malades qui sentent déjà l'air de la tombe.
« Le revoir, » dit-il.
« Ce serait vivre, » répondit-elle.
« Pensez-vous à lui d'âme seulement ?»«
Ah, monsieur, l'amour ne se partage point. »
« Fille de la race maudite, j'ai fait tout pour te sauver, je te rends à ta destinée, tu le reverras. »«
Pourquoi donc injuriez-vous mon bonheur ?
Ne puis-je aimer Lucien et pratiquer la vertu que j'aime autant que je l'aime? Ne suis-je pas prête à mourir ici, pour elle, comme je serais prête à mourir pour lui? Ne vais-je pas expirer pour ces deux fanatismes, pour la vertu qui me rendait digne de lui, pour lui qui m'a jetée dans les bras de la vertu? Oui, prête à mourir sans le revoir, prête à vivre en le revoyant. Dieu me jugera. Ses couleurs étaient revenues, sa pâleur avait pris une teinte dorée. Esther eut encore une fois sa grâce. Le lendemain du jour où vous vous serez lavé dans les eaux du baptême, vous reverrez Lucien, et si vous croyez pouvoir vivre vertueuse en vivant pour lui, vous ne vous séparerez plus. Le prêtre fut obligé de relever Esther, dont les genoux avaient plié. La pauvre fille était tombée comme si la terre eût manqué sous ses pieds. L'abbé l'assit sur le banc, et quand elle retrouva la parole, elle lui dit « Pourquoi pas aujourd'hui ? Voulez-vous dérober à Monseigneur le triomphe de votre baptême et de votre conversion ? Vous êtes trop près de Lucien pour n'être pas loin de Dieu. » « Oui, je ne pensais plus à rien. » « Vous ne serez jamais d'aucune religion, » dit le prêtre avec un mouvement de profonde ironie. « Dieu est bon, » reprit-elle, « il lit dans mon cœur. » Vaincue par la délicieuse naïveté qui éclatait dans la voix, le regard, les gestes et l'attitude d'Esther, Herrera l'embrassa sur le front pour la première fois. « Les libertins t'avaient bien nommé. Tu séduiras Dieu le Père. Encore quelques jours, il le faut, et après, vous serez libres tous deux. »« Tous deux ! » répéta-t-elle avec une joie extatique. Cette scène, vue à distance, frappa les pensionnaires et les supérieurs, qui crurent avoir assisté à quelque opération magique en comparant Esther à elle-même. L'enfant, tout changé, vivait. Elle reparut dans sa vraie nature d'amour, gentille, coquette, agaçante, gaie. Enfin, elle ressuscita.